On va donner la parole d'abord à Sophie Roland-Manas, que nous accueillons avec plaisir. Voilà.
Bien, bonsoir. Alors, j'ai modifié et le titre et le cheminement que j'avais prévu. Donc, un petit préambule là avant de commencer. J'ai choisi d'opérer des modifications donc quant à mon titre et aux propos initialement prévus. Aujourd'hui, et compte tenu de la situation liée au coronavirus et de ses effets, c'est autrement que j'ai voulu cheminer. Il se passe quelque chose. Voici mon titre. Nous voici chacun au cœur d'une tourmente, de renversement de nos habitudes et d'un confinement qui implique la contrainte à la non-présence des corps et au final, ce soir, un drôle d'endroit pour une rencontre, pour le dire avec le titre d'un film emprunté à François Duperron. Chacun chez soi, confiné, et néanmoins la possibilité de continuer le travail. Des départs, des assorties, ensemble. J'ai des petits soucis là-dedans. Des départs, des assorties, ensemble, séparés. Et si nous savons bien que c'est le discours analytique qui fait lien entre chaque un, ça pose malgré tout la question de ce que peut être un dispositif sans la rencontre des corps, y compris pour des temps de travail. C'est une de mes questions en tout cas. Alors, en effet, il se passe quelque chose et qui s'inscrit dans le battement temporel de l'histoire actuelle que nous vivons. Car nous ne sommes pas dans un film, non, avec cette pandémie, mais bien dans le surgissement du réel que nous traversons. Nous pourrions le dire, ou en tout cas j'ai envie de le dire, avec cette question que posait il y a un an l'artiste danseuse chorégraphe Maggie Marin concernant la transmission entre les générations. Quel est ce temps présent que je partage avec mes contemporains? Quel est ce moment de l'histoire que nous vivons ensemble? Peut-être que des réponses viendront dans l'après-coup. Mais ce que je peux dire, c'est que ce réel qui frappe, il nous traverse chacun et différemment. En effet, il n'y a pas de traitement généralisable face au réel. Et c'est la perspective analytique que de garantir une différence. C'est même le cheminement d'une cure menée jusqu'à son terme. En effet, dans le champ de la psychanalyse, l'inégalité est de structure du fait de l'inconscient, qui n'est pas égalitaire, pas plus que l'égalité face au réel n'existe. Ainsi, pas d'égalité, pas d'harmonie, ce qui est renforcé par l'entrée dans le langage qui a comme conséquence une disparité de la parole et dans le même temps, entre les êtres parlants. Une psychanalyse orientée par le réel ne vise pas à éteindre ou effacer la disparité ni l'inégalité. De la quête de la vérité et de la revendication d'une égalité, il s'agit plutôt au bout de l'expérience de mettre une barre sur le signe égal pour qu'il passe à la différence. N'est-ce pas de s'y reconnaître dans une égalité singulière, celle de la différence absolue ? Point de solitude radicale, et à partir de cette marque symptomatique, être en fonction d'analyste, quand c'est un choix en tout cas, et aussi tenter d'en faire résonner quelques traces, peut-être, dans la communauté analytique, dans un travail de transmission. Aujourd'hui, dans cette situation particulière, où les mouvements sont presque en arrêt, les déplacements au minimum et où l'on tente de standardiser le traitement face au réel, il est plus que jamais nécessaire de garantir la différence et d'accueillir la singularité. Personne n'est soumis ni ne subit la même chose. Nous pouvons entrevoir comment les uns bricolent des trouvailles, d'autres inventent des liens nouveaux. Et puis il y a ceux pour qui la rencontre traumatique avec le réel empêche, stoppe le processus du cours de leur vie, s'habituant à l'isolement, voire au désespoir. C'est bien là que le psychanalyste est convoqué, dans ce temps suspendu, et précisément par la question éthique concernant le désir. Lacan le rappelle dans son séminaire sur l'éthique. La seule chose dont on puisse être coupable, au moins dans la perspective analytique, c'est d'avoir cédé sur son désir. C'est ce que peut nous apprendre une psychanalyse, ne pas sombrer dans la culpabilité ou dans l'amorosité. Mais l'expérience du désir n'est pas chose simple. Elle laisse intranquille. Il y a toujours la présence de la mort au cœur du désir. Dès l'entrée dans le langage, il y a cette mort sur, cet empiestement de la mort sur la vie. C'est toujours par quelque franchissement de la limite bénéfique que l'homme fait l'expérience de son désir, dit Lacan toujours dans l'éthique. En effet, ce sont des étapes, des épreuves qui marquent le chemin d'une existence pour un sujet. Supporter la vie reste bien le premier devoir de tous les vivants, écrit Freud en 1915, dans Considération actuelle sur la guerre et sur la mort. Il s'agit alors, pour le psychanalyste, enfin, je pense comme ça, de se faire responsable de cette urgence lorsqu'un sujet, dans un basculement, une vacillation, une confrontation avec le réel, s'adresse à lui et du comment il peut en répondre dans son dire et dans son acte. C'est à ce point que le psychanalyste, ou du moins que sa fonction, est convoqué, car le réel, ce qui revient toujours à la même place, c'est bien ce avec quoi l'analyste a affaire dans la direction des cures qu'il mène. Et c'est singulièrement aussi avec la boussole du désir de l'analyste qu'il travaille, parce qu'il en a retiré dans sa propre analyse, de la rencontre avec l'impossible et dans la passe à l'analyste par la confrontation avec sa propre horreur de savoir. C'est dans cette dimension de la position de l'analyste que je comprends ce que dit Lacan en 1966. Tant qu'une trace durera de ce que nous aurons instauré, il y aura du psychanalyste à répondre à certaines urgences subjectives. Ceci donne les prémices à son invention de la passe, juste un an avant sa proposition, et cerne les contours de ce qu'il reprendra plus tard, encore plus tard, en 1976, dans la préface à l'édition anglaise du séminaire 11, concernant les cas d'urgence. La nécessité d'écrire là-dessus avec ceux qui se sont risqués à faire la passe, dit-il, à témoigner de leur expérience. Mais comment faire la paire avec eux, ceux qu'ils nomment les épars des assortis? Car bien sûr, du côté des analystes, des AE, il n'y a que du particulier aussi, du un par un, et d'autant plus des assortis et inégaux. Comment alors chaque inégalité peut-elle résonner entre eux? Transmettre quelque chose de son cru, de ses élaborations, qui est une valeur pour d'autres, subit un paradoxe. La transmission se heurte à un point d'impossible. Le reste incurable, intraduisible, qui fait point d'absence, n'est pas transmissible. Alors peut-être s'agit-il de le reconnaître. En tout cas, de le dire. Pas plus ou pas moins, les AE ne forment un groupe. Il n'y a pas d'identification à un tri idéal. Néanmoins, si l'élaboration du travail analytique se fait à partir d'un point de solitude radicale, elle ne se transmet pas sans les autres, ou du moins, sans les quelques autres un. Peut-on gager que dans une école, la communauté de travail, ce sont quelques voix dissonantes qui résonnent et laissent trace, celle de la langue de chaque un. Alors je terminerai avec quelques mots de la danseuse Maggie Marin, qui pour moi font résonance, qui dit quelque chose aussi de ce que m'a appris la psychanalyse dans la position que je tente de tenir. Sentir la brièveté du temps de la vie, l'urgence d'agir avant de passer mon tour. Saisir la vie, l'œuvre du temps, l'argile unique dont nous sommes faits. Je vous remercie.
Alors, je remercie beaucoup Sophie Roland-Manas pour cette excursion chez les assortis, là, et pas.